VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anne Robertson. Au sommaire, en ce mardi 11 août 2015.
Remaniement ministériel lundi soir au Congo-Brazzaville.
Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice.
Non-lieu de la justice britannique dans l'affaire Emmanuel Karenzi Karake, le chef du renseignement rwandais, arrêté à Londres à la demande de l'Espagne, qui l'accuse de crime de terrorisme.
Oui, le gouvernement est satisfait qu'au moins la justice s'est exprimée clairement là-dessus.
Réaction d'Albert Roudat Simbourwa, directeur de la radio-télévision Contact à Kigali.
L'insécurité gagne du terrain au Mali, notamment dans la région de Mopti.
Même si les autorités s'efforcent à dire que des dispositions sont en train d'être prises pour veiller sur des personnes et leurs biens, la population ne cesse de s'interroger.
On entendra le compte-rendu de notre correspondant Mamadou Bokoum.
Et ici, aux États-Unis, l'état d'urgence a été décrété à Ferguson, dans le Missouri.
Mais tout d'abord, le journal. Remaniement ministériel lundi soir au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a exclu du gouvernement deux ministres opposés à un changement de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat, signalent les médias. Il s'agit de la ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Mounari, et du ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, Guy Brice Parfait-Kolelas.
Au Burundi, une vaste opération de sécurité a eu lieu hier à Djabé, un quartier de Bujumbura. Selon un habitant joint par Eric Manirakiza et qui a requis l'anonymat, de nombreux policiers procédaient à des fouilles dans les ménages à la recherche d'armes.
La fouille a commencé et personne n'a quitté le quartier vers un autre quartier. Donc on a essayé de demander certains policiers, donc ils nous ont dit qu'ils ont eu l'ordre de fouiller tout le quartier. Il n'y a pas de mandat de perquisition parce que la police vient en grand nombre, entre à 5 ou 6 jusqu'à 10 et les autres restent à l'extérieur de la maison.
Est-ce qu'il y a eu des arrestations?
La police a malmené beaucoup de gens et surtout les jeunes. Quand ils rencontraient les jeunes en groupe de 3 à 4, donc ils leur demandent les pièces d'identité, ils regardent, mais ce qui est étonnant c'est que après avoir regarder les cartes d'identité. Il y a certains policiers qui enlèvent les gens. Certains disent qu'ils les dirigent vers la documentation, les autres sur la police judiciaire. Donc on ne sait pas pourquoi on fait cela.
Les perquisitions se sont achevées en début d'après-midi, mais les policiers sont restés dans le quartier et les habitants de Djabé ont évoqué une dizaine d'arrestations.
Toujours concernant le Burundi, Pierre Claver Bonimpa a gagné Bruxelles pour recevoir des soins médicaux. Grande figure de la société civile burundaise, Monsieur Bonimpa a été la cible d'une tentative d'assassinat la semaine dernière. Il a été gravement blessé par deux balles au visage et au cou.
Emmanuel Karenzi Karake, le chef des services secrets rwandais, n'est plus poursuivi par la justice britannique. Un porte-parole du tribunal de Westminster Magistrate a déclaré avoir abandonné la procédure d'extradition du général Karake, arrêté à Londres à la demande de l'Espagne. Il a ajouté que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entraient pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique.
Ouverture ce mardi en République démocratique du Congo d'une session extraordinaire du Parlement consacrée au projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales, locales et urbaines. Projet de loi déjà rejeté par le même Parlement après un premier examen par ces deux chambres.
La session convoquée a vivement été critiquée par le député Jean-Bertrand Ewanga. Il s'agit d'une violation de la Constitution selon ce parlementaire qui avait été arrêté l'année dernière pour s'être ouvertement opposé à un troisième mandat du président Joseph Kabila. On écoute Jean-Bertrand Ewanga lors d'un point de presse à Kinshasa.
Ça c'est mouroir. Le gouvernement a ignoré et ne comprend même pas qu'il existe une prison. C'est un camp de concentration nazi. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Des histoires insupportables. Vous savez, on a construit la prison pour 1500 personnes. Les fosses septiques pour 1500 personnes. Depuis 1950 déjà bouchées. Vous avez 7000 à 8000 personnes. La quantité énorme de caca qui est produit, ça fait une odeur nauséabonde. Donc on vous envoie là-bas pour mourir. Et il y a ces milliers salives. Et les conditions, il faut se prendre en charge. L'État ne fait rien pour faire la peinture, pour mettre l'ampoule. C'est toujours le prisonnier qui doit supporter. Donc la charge sur le prisonnier. Mais au moins, ceux qui m'ont envoyé en prison m'ont aidé. En prison, j'ai renforcé mon anglais. En prison, j'ai appris l'arabe. En prison, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est toute une université là-bas. Et je crois que dans cette opération, je crois moi j'ai gagné. Et je n'ai pas regretté.
Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. L'institution avait été saisie par ses partisans après le vote en ce sens par les députés du Parlement intérimaire le 16 juillet. Des détails avec Jacques Aristide.
Le vote du Parlement ne rentre pas dans les domaines de contrôle de constitutionnalité exercés par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité des lois déjà promulguées ou en vigueur. C'est en ces termes que l'institution justifie sa décision, laquelle ne peut faire l'objet de recours. La mise en accusation concerne également l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré et il s'agit ici de coups et blessures volontaires et d'assassinats notamment, une procédure que les élus pro-Compaoré ont qualifiée de chasse sorcière. À propos de l'exil de l'ex-président en Côte d'Ivoire depuis sa chute en octobre dernier, son successeur Michel Kafando avait laissé entendre que cela ne représentait pas un problème pour Ouagadougou tant qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Et à en croire le procureur général de la Haute Cour de justice du Burkina, les premiers jugements auront lieu avant la fin de la transition.
En Côte d'Ivoire, l'organe de régulation de la presse a suspendu pour un mois le quotidien Aujourd'hui. Son directeur de publication avait été incarcéré puis libéré au début de ce mois. Jean-Roger Bion.
Le Conseil national de la presse a suspendu ce quotidien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo pour 21 parutions. Cette décision qui a pris effet hier interdit à tout imprimeur de tirer ce journal pendant la durée de la suspension. Pour Joseph Titi Nyawa, directeur de publication, le CNP a été mis en mission par le pouvoir en place. Joseph Titi avait lui-même été interpellé et incarcéré le 28 juillet pour outrage au chef de l'État. Il a été libéré le 3 août dernier, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Économiquement très fragilisé, la presse ivoirienne est restée très divisée pendant la crise politico-militaire qui a fait plus de 3000 morts dans le pays. Maintenant, l'ancien président Laurent Gbagbo est détenu à La Haye et le président Alassane Ouattara est donné grand favori à l'élection présidentielle d'octobre prochain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des manifestants se sont rassemblés lundi soir à Ferguson, dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, malgré l'état d'urgence déclaré dans la journée par les autorités après des violences la veille, jour anniversaire de la mort du jeune noir Michael Brown. Les protestataires se sont regroupés dans une rue proche du lieu où cet adolescent a été abattu le 9 août 2014 par un policier blanc. Un homme de 18 ans a été inculpé lundi de violence contre les forces de l'ordre après un échange de coups de feu lors de manifestations dimanche marquant cet anniversaire. L'homme inculpé, Tyrone Harris, a été grièvement blessé lors de l'échange de tirs et il reste hospitalisé.
Une quarantaine de personnes sont mortes lundi dans trois attaques, dont deux attentats suicides à la voiture piégée dans la province de Diyala, dans le nord-est de l'Irak. On signale des dizaines de blessés. Un premier attentat suicide à la voiture piégée a frappé un marché de Houaider. Une seconde attaque similaire a tué au moins 10 personnes à Canaan. Et une attaque à la bombe a coûté la vie à 3 personnes à Ouattara. Ces attentats ont eu lieu près de Bakouba, la capitale de Diyala.
Et puis le président Ashraf Ghani a demandé à Islamabad de sévir contre les talibans qui ont revendiqué la responsabilité de l'attentat à la voiture piégée perpétré lundi près de l'aéroport de Kaboul. Un attentat qui a coûté la vie à au moins 5 personnes et fait 16 blessés. Le bilan d'une série d'attaques à Kaboul ces derniers jours se chiffre à environ 70 morts et à des centaines de blessés.
On enchaîne avec la Minute Éco avec Félix Yepassis Zembrou.
Le Fonds humanitaire commun en République centrafricaine a alloué 13,2 millions de dollars pour porter assistance aux personnes déplacées, aux réfugiés et aux communautés d'accueil les plus vulnérables. L'argent va soutenir les organismes d'aide internationaux pour l'assainissement, l'éducation, la fourniture d'abris d'urgence, la gestion des sites des personnes déplacées, la nutrition, la protection, le renforcement des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et les soins de santé. La Chine va construire une nouvelle autoroute au Liberia en bordure de mer dans le cadre de son aide au pays luttant contre l'épidémie d'Ebola, a annoncé le ministre libérien des Affaires étrangères. L'autoroute longeant l'océan est vitale pour le commerce dans ce pays qui se reconstruit après la guerre civile qui a pris fin en 2003. Cette voie relie la capitale Monrovia à la frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est par ce débouché que transitent principalement les exportations de produits de fer et de bois, mais une grande partie de cette route n'est pas goudronné. L'offre de pétrole sur le marché mondial sera plus abondante à partir de décembre, a annoncé dimanche le ministre algérien de l'énergie, Salah Kibri, dont le pays a perdu la moitié de ses revenus en raison de la baisse des prix de l'or noir. Selon le ministre algérien, les consultations sont en cours entre les pays de l'OPEP au sujet d'une éventuelle réunion extraordinaire du cartel consacrée à la baisse des cours.
Et maintenant, les sports en compagnie de Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
On commence avec la Coupe de la Confédération, suite du match entre le Stade malien et l'Espérance de Tunis.
Et les Maliens n'ont pas pu renverser la vapeur. Il restait 40 minutes de jeu entre les deux équipes pour ce match comptant pour la quatrième journée de la phase de groupe. Dimanche, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale malienne ont contraint l'arbitre à arrêter la rencontre alors que les Tunisiens menaient 1-0. Eh bien, le score n'a pas changé hier soir. Victoire finale de l'Espérance de Tunis, 1-0. Écoutons d'abord la déception de l'entraîneur du Stade malien, Kamel Djabour.
Il nous a manqué beaucoup de réussite. Vous avez bien vu que sur l'ensemble du match, on a eu quand même des occasions franches. Ou c'est le poteau qui a repoussé, ou c'était simplement un oubli peut-être de l'arbitrage. Je pense que les garçons ont poussé. Je me suis même retrouvé, si vous avez vu la deuxième partie, où j'ai mis quand même 5 attaquants. J'ai même tenté de sortir un défenseur et j'ai joué à 3. Donc tactiquement, on a tout essayé, tout fait. Les joueurs ont essayé. Ils se sont battus jusqu'au bout. La réussite n'était pas à la clé. Bah, c'est comme ça, c'est le football. On n'a pas perdu tactiquement, on a perdu par manque d'adresse et de réussite devant le but. Et aujourd'hui, ça n'a pas été de notre côté.
Kamel Djabour, l'entraîneur du Stade malien. Évidemment, autre sentiment, la satisfaction chez l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, José Anigo.
C'est la victoire de l'orgueil avant toute chose, de la fierté d'une équipe et d'un club. Et c'est aussi la victoire tactique parce que autant à l'aller, on avait essayer de jouer contre une équipe qui presse très haut et qui va vite, qui a des qualités typiquement africaines de puissance et vitesse, qui nous a fait beaucoup de mal à Tunis. On a opté pour rester bas et pour faire du jeu direct. Et je crois que c'était vraiment ce qu'il fallait faire contre cette équipe. Très heureux parce que j'arrivais dans un club. Je venais de faire 3 matchs dans cette compétition, 3 défaites. C'est jamais agréable de perdre et quand on perd, on ne donne jamais une bonne image. Donc gagner, pour moi, c'était essentiel. Plus que de chercher la qualification, c'était la fierté et le prestige pour nous.
José Anigo, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, des réactions recueillies pour VOA Afrique à Bamako par Siaka Traoré.
Supercoupe d'Europe, aujourd'hui 100% espagnol.
Le FC Barcelone, vainqueur du triplé Liga, Coupe et Ligue des Champions, repart en chasse avec la Supercoupe d'Europe contre Séville. Les Blaugrana viseront, malgré l'absence de Neymar, un 4e titre sur 6 possibles en 2015. A noter que ce match se jouera ce soir à Tbilissi, en Géorgie.
Rubrique transfert.
L'attaquant ivoirien Seydou Doumbia a été prêté par l'AS Rome au CSKA Moscou, club qu'il avait quitté en janvier dernier pour la capitale italienne. Doumbia, 27 ans, est prêté par l'AS Rome jusqu'à la fin de l'année, avec la possibilité de prolonger jusqu'à la fin de la saison 2016. C'est ce qu'a expliqué le club russe. Doumbia avait déjà évolué au CSKA entre 2010 et 2015, inscrivant 84 buts en 129 rencontres. En janvier dernier, il avait été transféré à la Roma pour un montant de 14,5 millions d'euros, sans parvenir à s'imposer en Italie.
Et on passe au basket avec le tournoi de Dakar.
Ce tournoi qui sert de préparation à l'Afrobasket en Tunisie est perturbé par le forfait de la Côte d'Ivoire. Une équipe B du Sénégal a été battue hier par le Cap-Vert 58-73.
Dans l'autre rencontre, l'équipe masculine de basketball du Sénégal a obtenu lundi sa deuxième victoire au tournoi international de Dakar. Les Lions ont battu 61-52 l'équipe du Mali lors de la deuxième journée de la compétition.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis. la loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Washington, la Voix de l'Amérique, Amé Grodidier avec vous pour présenter les dossiers du jour. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Au Rwanda, le gouvernement est satisfait du non-lieu prononcé par la justice britannique dans l'affaire Emmanuel Karenzi Karake. Le chef des services secrets rwandais avait été arrêté à Londres le 23 janvier 2015 à la demande de l'Espagne. Mais hier, le tribunal de Westminster Magistrate a estimé que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entraient pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique. L'arrestation du général Karake avait jeté un froid dans les relations entre Londres et Kigali. Alors, comment sa libération est-elle perçue au Rwanda? Eh bien, Eric Manirakiza a joint à Kigali Albert Rudatsimbowa, le directeur de la radio-télévision Contact.
Satisfaction, bien entendu, surtout qui démontre que tout ça est quand même le fruit d'une machination qui serait poursuivie par les gens qui nient le génocide, en fait. Parce qu'il démontre aussi que tout ce cas-là était une façon d'expliquer, de refaire l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé au Rwanda, le moment le plus pénible pour la société rwandaise, où on réécrivait l'histoire et ceux qui auraient arrêté le génocide, accusé même donc, de génocide. Et donc, oui, le gouvernement est satisfait qu'au moins la justice s'est exprimée clairement là-dessus. Mais en plus de ça, je crois pouvoir dire que les gens aussi, quand même, quelque part, ont senti une certaine frustration d'un pays africain qui arrive une histoire comme ça. Je crois qu'ici, tout le monde ressent toujours ce manque de respect, des fois, quelquefois, pour des institutions parce qu'elles viennent d'Afrique. Donc aujourd'hui, je crois qu'aussi des gens se sentent bien.
Un porte-parole du tribunal de Westminster Magistrate a dit que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entrent pas dans le cadre des infraction couverte par la procédure d'extradition britannique. Est-ce qu'il y a eu une réaction du gouvernement par rapport à ce point?
Oui, ça conforte ce que le gouvernement rwandais déjà dès le départ avait dit aux Britanniques. Mais la question qui va peut-être se faire poser maintenant, c'est la suite qui va être donnée à tout cela. Il a fallu quand même que quelqu'un crée cette action et c'est quand même venu de quelque part.
Justement, comment on en est arrivé à ce point?
Il est quand même étrange que René Mugenzi, qui est d'origine rwandaise et qui réside en Grande-Bretagne, qui en fait s'est adressé à la police de Grande-Bretagne en inventant en tout cas que le chef de la sécurité et de la documentation, comme on dit en français, rwandaise, Karenzi Karake, qui est venu en fait en Angleterre pour tuer. Mais cette personne-là, il ne faut pas oublier que c'est le fils de Joseph Mugenzi, soupçonné de génocide, recherché par la justice rwandaise, et que cette même personne se fasse passer pour un rescapé du génocide, lui, de l'hospitalité britannique, il trompe la police britannique, et à ce moment-là, fait activer ses réseaux en Espagne, qui ont essayé de raviver, en fait, ça qui avait été déjà déclassé par la justice espagnole. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement la justice britannique qui s'est prononcée, mais la justice espagnole. Et la finalité, on le saura le 8 septembre par la Cour suprême espagnole.
Albert Rudatsimbowa, le directeur de la radio-télévision Contact.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
En République centrafricaine, les opérations de recensement électoral lancées le 29 juin dernier ont du plomb dans l'aile. Plusieurs dysfonctionnements sont enregistrés dans les opérations, notamment le manque de moyens adéquats auxquels sont confrontés les agents de l'Autorité nationale des élections déployés sur le terrain. Je vous propose de suivre ce dossier de Freeman Sipila.
Dès son lancement à Bangui, le recensement électoral a connu une faible mobilisation des populations en âge de voter. L'autorité nationale des élections a dû faire marche arrière afin d'impliquer les maires d'arrondissement et chefs de quartier dans les opérations. Quelques jours plus tard, l'engouement devient important. Jusqu'au 30 juillet, date de la clôture du recensement à Bangui, l'autorité nationale des élections a assuré avoir enregistré plus de 500 000 électeurs, en plus de la commune de Bégoua et de Bimbo, aux périphéries de Bangui, sur les 2 millions attendus. Marie-Madeleine Coué, rapporteure générale de l'autorité nationale des élections, ANE.
Il y avait 511 671, plus Bangui, d'inscrits déjà. Le chiffre donné pour Lombelampoko, il a déjà évolué. Par exemple, à Bégoua, en 3 jours, ils ont inscrit 80 000. Et Bimbo 1, Bimbo 3 et 4, ça fait 44 721. Donc ça évolue. Et j'ai bien précisé que c'est un bilan vraiment à minima. Il y en a qui venaient de démarrer, mais on attend pour toute la République à peu près 2 millions.
Malgré ce bilan jugé positif par l'ANE, les opérations qui se poursuivent dans les autres villes du pays sont fragilisées par les plaintes des agents des démembrements de l'ANE, plaintes relatives au manque de moyens de travail, aux caméras régulièrement pannes. À cela s'ajoute le non-versement de leurs primes. Situation décriée par Thierry Vaca, conseiller national de transition et ressortissant de Mongumba dans la préfecture de la Lubaï.
Les démembrements de l'ANE sont déployés dans la circonscription de Mongumba. Nous avons des problèmes. Les fiches d'enrôlement ne sont pas en quantité suffisante. Les appareils numériques chargés de prendre en photo les personnes recensées ne fonctionnent pas, ou soit il y a un problème de batterie. Donc tous ces dysfonctionnements font que le travail n'est pas fait.
Autre dysfonctionnement, les grognes répétées des agents recenseurs revendiquant quasi régulièrement le versement de leurs indemnités. En plus de cela, l'absence remarquable marqué de certains chefs de quartier auprès des agents de recensement pour témoigner de leurs administrés. Désiré Bienvenu Bambou est agent recenseur au centre d'enrôlement de l'école préfectorale de Bimbo.
Ici, au niveau de Bimbo, les chefs de quartier restent à la maison et ils veulent à ce que les administrés aillent chez eux et ils les enregistrent et ils signent les documents et que ces administrés-là, à leur tour, nous amènent les documents et qu'on puisse les enregistrer. Peut-être les chefs ne sont pas motivés, on ne sait pas, parce qu'ils devraient être là avec nous, et si c'est leur administré qui est là, ils se disent que c'est voilà, ça c'est mon administré, et puis on les enregistre et ils signent. Mais ce qui est là, les chefs ne sont pas avec nous.
Autant de problèmes à traiter par l'ANE qui compte boucler ses opérations de recensement électoral d'ici le 22 août prochain dans le reste du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier depuis Washington. L'insécurité gagne du terrain au Mali. Dans l'ensemble du pays, la population s'inquiète, notamment dans la région de Mopti. Le point avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
L'insécurité au Mali devient de plus en plus le quotidien des citoyens, même si les autorités s'efforcent à dire que des dispositions sont en train d'être prises pour veiller sur des personnes et leurs biens. La population ne cesse de s'interroger. Pour illustration, la prise d'otages déjouée du vendredi en plein jour à l'ancien hôtel Biblos, situé, tenez-vous bien, entre le camp de l'armée de l'air et le Kigé de la MINUSMA. Cette attaque est la troisième en moins d'une semaine dans le pays, après deux assauts qui ont fait 13 morts parmi les militaires, dont deux dans une embuscade vers Nampala dans la région de Ségou le 1er août et 11 autres tués dans un camp de la garde nationale à Gourmararous dans la région de Tombouctou. C'était le 3 août. Ces deux attaques devraient servir de leçon pour une mobilisation et une vigilance plus forte dans tous les pays, surtout dans la région de Mopti, une région où la force pour la libération du Massina ne cesse de dicter sa loi. En témoignent les attaques à répétition de Tenenkou, Diafrabé, Ndjoura, Djenné et l'assassinat du chef de village de Dogo dans le cercle de Yuaru, sans oublier la profanation du mausolée de Sekou Amadou, fondateur de l'empire théocratique de Massina parmi tant d'autres. Les populations dorment aujourd'hui avec la peur dans le ventre. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
Ici Washington, en Guinée, Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme, a reconnu que les 5 officiers en détention sans jugement depuis 4 ans devraient être relâchés. Ils avaient été arrêtés après l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Idriss Fall a joint à Conakry Maître Kpana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme.
Ces cinq officiers, il s'agit entre autres du général Nountam et du colonel Sadou Diallo et trois autres officiers de l'armée guinéenne qui coupissent en prison en toute illégalité depuis août 2011 au motif qu'ils seraient mêlés à l'affaire de l'attaque contre le domicile du chef de l'État qui a eu lieu le 19 juillet 2011. Et depuis lors, leur dossier est renvoyé devant le tribunal militaire qui n'existe pas encore dans la pratique en Guinée. Et donc, ils sont détenus en violation de toutes les règles de procédure. C'est pourquoi le samedi, nous avons publié un communiqué de presse, je veux parler de la Ligue Guinée des droits de l'homme et de la Fraternité des prisons de Guinée, pour demander leur libération immédiate et inconditionnelle, parce que leur détention n'est pas fondée sur le droit.
Apparemment, le ministre des Droits de l'Homme de Guinée semble vous donner raison.
Oui, absolument, parce que nous avions contacté M. le ministre des Droits de l'Homme et même son homologue de la justice, qui ont tous reconnu qu'à ce niveau, les personnes en question sont victimes de violations de leurs droits, parce que du moment où le tribunal militaire n'existait pas, du moment d'ailleurs où la peine qu'on pourrait leur infliger est purgée, par exemple, le général Nountam 24 fois, parce que s'il est reconnu coupable, c'est la peine d'emprisonnement de 2 mois qu'on pourrait lui appliquer d'après le code pénal guinéen en son article 547 alinéa 1. En ce qui concerne les 4 autres, leur peine d'emprisonnement, le maximum, c'est 6 mois, alors que depuis 2011 jusqu'à nos jours, ils ont fait 48 mois. Donc, nous pensons que leur détention est illégale. C'est pourquoi, effectivement, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a reconnu sur les antennes de certaines radios que, effectivement, leur détention est illégale.
Et vous pensez qu'ils seront relâchés, quand même?
Oui, c'est notre souhait. Et nous estimons que les autorités guinéennes, en tout cas les autorités judiciaires, sont informées officiellement par rapport au cas de ces 5 officiers. Et nous estimons que nous sommes dans un état de droit. Par conséquent, les 5 officiers en question seront mis en liberté immédiatement et sans condition.
Maître Kpana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au micro, Camille Groditier, les autorités ont décrété l'état d'urgence lundi à Ferguson, dans la banlieue de St. Louis, dans le Missouri, où un homme de 18 ans a été inculpé de violence contre les forces de l'ordre après un échange de coups de feu lors de manifestations marquant le premier anniversaire de la mort d'un adolescent noir tué par un policier blanc le 9 août 2014. L'homme inculpé, Tyron Harris, a été grièvement blessé lors de la fusillade et il reste hospitalisé. Le commissaire de police du comté, John Belmar, a expliqué que 2 bandes rivales ont échangé des tirs. Le point avec Lionel Gaïma.
Selon le commissaire Belmar, il s'agissait là des criminels et non pas des protestataires. Les protestataires, ce sont les gens qui sont là-bas parlant de moyens d'obtenir le changement. Tel n'était pas le cas avec ces 2 bandes, a soutenu le chef de la police du comté de Saint-Louis. Quant au père du blessé, il a dit au Saint-Louis Post-Dispatch que son fils était un ami proche de Michael Brown. Belmar estime que cette violence était un obstacle à un changement positif, ajoutant que la police avait accru sa présence dans le secteur après qu'on a signalé des actes de pillage et de jets de bouteilles près de ses policiers. L'un d'entre eux a été blessé, dit-il, par une brique dimensoire à Ferguson. Tout en reconnaissant que les émotions sont fortes, le commissaire de police a dit que la communauté se devait d'aller de l'avant et il a demandé de l'aide pour identifier ceux qui sont allés au-delà des protestations pacifiques. Des rassemblements ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment Washington et New York, pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, symbole pour beaucoup de l'impunité consécutive à la mort de jeunes gens noirs non armés abattus par des policiers blancs. Intervenant sur ABC News, le sénateur Cory Brown du New Jersey a parlé de l'inégalité raciale dans le système judiciaire américain. Quand vous voyez une justice criminelle qui n'est pas ce qui est gravé sur les murs de la Cour suprême, justice pour tous, comprenez s'il vous plaît qu'il va y avoir une réaction que l'on peut comprendre dans notre pays. Tout a commencé il y a un an en Ferguson quand le policier Darren Wilson s'est présenté sur les lieux après qu'on a signalé un vol dans une boutique locale. Une confrontation s'en est suivie quand il a rencontré Michael Brown qu'il allait abattre avec 12 balles. Le policier Wilson a été acquitté. Cette tragédie a provoqué un tollé et donné naissance au mouvement Black Lives Matter, la vie de Noir compte. Il y a eu, par la suite, la mort de Walter Scott en Caroline du Sud et de Freddie Gray à Baltimore. Dans ces deux cas, plusieurs policiers ont été inculpés, mais inculpation ne signifie pas condamnation, et cela inquiète ceux qui estiment que la police cible le Noir de manière disproportionnée au sein de la population carcérale qui ne cesse de grossir aux États-Unis. De nouveau, le sénateur Corey Brown. Nous représentons 4% de la population mondiale, 4 à 5%, et une sur quatre personnes est emprisonnée ici dans ce pays. Bien sûr, il y a des raisons d'être bouleversées et de réagir.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Watson, au micro Camille Grosdidier. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook ou encore notre site internet. Et entre-temps, passez une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.